Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
La personne de Jésus-Christ demeure au cœur du message de la Bible et de la foi chrétienne. Il est donc essentiel de comprendre sa vie et son enseignement, ainsi que le sens de sa mort et de sa résurrection.
C'est dans cette optique que nous continuons aujourd'hui notre étude sur l'Évangile de Marc. Nous allons aborder le chapitre 15. Mais avant de lire le texte pour aujourd'hui, je voudrais souhaiter la bienvenue à Matthieu, qui va nous aider à mieux comprendre le message qu'il contient. Matthieu, bonjour.
Bonjour Yann, et bonjour à tous. Merci pour votre invitation.
Matthieu, avant de passer à notre lecture biblique, pouvez-vous nous parler du contexte de ce chapitre 15 dans le récit de l'Évangile de Marc ?
Oui, bien sûr. Ce chapitre relate les dernières heures de la vie de Jésus. À la fin du chapitre 14, Jésus est arrêté par l'élite religieuse juive, puis il est emmené devant un tribunal religieux dont le grand prêtre fait partie. Même si Jésus est innocent de tout crime, ce tribunal trouve pourtant un prétexte pour le condamner. Le chapitre 15 raconte la suite des événements. Cédons la parole à Sandra pour la lecture des premiers 15 versets.
Dès l'aube, les chefs des prêtres tinrent conseil avec les responsables du peuple, les spécialistes de la loi et tout le grand conseil. Ils firent enchaîner Jésus, l'emmenèrent et le remirent entre les mains de Pilate. Pilate l'interrogea.
« Es-tu le roi des Juifs ?»«
Tu le dis toi-même, »
lui répondit Jésus. Les chefs des prêtres portèrent contre lui de nombreuses accusations. Pilate l'interrogea de nouveau et lui dit «
Eh bien, tu ne réponds rien. Tu as entendu toutes les accusations qu'ils portent contre toi. »
Mais, au grand étonnement de Pilate, Jésus ne répondit plus rien. À chaque fête de la Pâque, Pilate relâchait un prisonnier, celui que le peuple réclamait. Or, à ce moment-là, il y avait sous les verrous le nommé Barabbas, avec les agitateurs qui avaient commis un meurtre au cours d'une émeute. La foule monta donc au prétoire et se mit à réclamer la faveur que le gouverneur leur accordait d'habitude. Pilate répondit
« Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?»
Il s'était rendu compte en effet que les chefs des prêtres lui avaient livré Jésus par jalousie. Mais les chefs des prêtres persuadèrent la foule de demander qu'il libère plutôt Barabbas. « Mais alors, insista Pilate, que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» De nouveau, ils crièrent
« Crucifiez-le » « Qu'a-t-il fait de mal ?»
Eux, cependant, crièrent de plus en plus fort
« Crucifiez-le !»
Alors Pilate, voulant donner satisfaction à la foule, leur relâcha Barabbas. Et, après avoir fait battre Jésus à coups de fouet, il le livra pour qu'on le crucifie.
Merci Sandra. Matthieu, vous avez dit tout à l'heure que Jésus a été condamné par un tribunal religieux juif. Oh, dans le texte lu, Jésus est emmené devant un nommé Pilate pour de nouveau subir un interrogatoire et un procès. Pouvez-vous nous expliquer qui est Pilate et pourquoi il fallait que Jésus comparaisse devant lui?
Oui. Souvenez-vous qu'à l'époque, le pays d'Israël faisait partie de l'Empire romain. En tant que nation, Israël gardait une certaine autonomie, mais les décisions importantes devaient être soumises à l'État romain. Or Pilate était le représentant de Rome. Il était gouverneur de cette partie du monde. Pour les affaires religieuses, les Juifs avaient le droit de tenir leurs propres tribunaux. Cependant, s'ils souhaitaient condamner une personne à la peine de mort, comme ce fut le cas pour Jésus, ils devaient soumettre leur décision à Pilate. Celui-ci, en tant que gouverneur, avait le droit soit d'approuver leur délibération, soit de la rejeter.
C'est donc Pilate qui détient le véritable pouvoir. Toutefois, il donne l'impression de ne pas vraiment vouloir condamner Jésus.
C'est exact, Yann. Il avait compris, comme le texte l'exprime, que les chefs religieux juifs voulaient se débarrasser de Jésus par pure jalousie. Il avait compris que Jésus ne représentait pas du tout une menace pour l'État romain, De toute évidence, Jésus n'avait commis aucun crime.
Et pourtant, pendant son interrogatoire, Jésus refuse de répondre. Il refuse de se défendre contre les accusations des Juifs. Il aurait pu profiter de la compréhension de Pilate pour éviter le pire.
Oui, mais en fait, ce ne sont pas les hommes qui maîtrisent les événements. Bien que dans une situation où il est très vulnérable, Jésus reste maître de son destin et il est résolu, absolument déterminé à exécuter les desseins de Dieu. Il permet aux hommes injustes de le livrer à la croix, car il sait que c'est ainsi qu'il deviendra le sacrifice qui sauvera une multitude d'hommes perdus du péché, de Satan et de la mort. De plus, en demeurant muet devant ses accusateurs, Jésus accomplit les paroles prophétiques d'Ésaïe au chapitre 53, verset 7. On l'a frappé et il s'est humilié, il n'a pas dit un mot. Semblable à un agneau mené à l'abattoir, tout comme la brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a pas dit un mot. Ces paroles nous permettent d'interpréter la crucifixion de Jésus à la lumière de tout ce que le prophète écrit sur celui qu'il appelle le serviteur de l'Éternel.
Que dit alors le prophète Ésaïe au sujet du serviteur de l'Éternel ?
Nous y reviendrons sans doute tout au long de cette série, mais en bref, celui dont le prophète parle mourra en sacrifice pour nos péchés. Citons le verset 5 d'Ésaïe, chapitre 53. « Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. » Oui, Jésus reste muet face aux accusations des hommes, car au lieu de chercher son propre bien-être, il a en vue un dénouement glorieux. Par sa mort, les hommes et les femmes pourront trouver la paix avec Dieu.
Merci Matthieu. Oui, je suis sûr que nous reviendrons sur ces vérités plus en détail lors de nos prochaines émissions. Toutefois, je voudrais à présent parler de Barabbas. Qui était-il ?
Nous savons en fait peu de choses sur lui. Il était prisonnier à Jérusalem, inculpé pour des crimes graves. C'était apparemment un agitateur, un opposant de l'État romain. Il y avait beaucoup d'hommes tels que lui en Israël à cette époque-là. Certains étaient prêts à tout pour se débarrasser de l'occupant romain. Barabbas, selon le texte, a fait partie d'une émeute et alors que les Romains auraient envoyé des soldats pour rétablir la paix, il aurait commis un meurtre. Le texte n'est pas explicite, mais il me semble probable que Barabbas ait assassiné un soldat romain.
Expliquez-nous pourquoi Pilate l'a libéré. À sa place, c'est le dernier individu que j'aurais relâché.
Oui, effectivement. C'était le lendemain de la fête juive de la Pâque et apparemment, une tradition existait selon laquelle, pour faciliter des bonnes relations, le gouverneur romain accordait la liberté à l'un de ses prisonniers. Alors Pilate offrit un choix aux Juifs qui s'étaient rassemblés devant son palais. Il proposa de libérer soit Barabbas, soit Jésus. Et c'était à la foule de décider.
Et la foule, influencée par les propos de leur chef religieux, choisit Barabbas.
C'est exact, Yann. Ce choix a sans doute contrarié Pilate, car Barabbas était un homme dangereux, une menace pour l'État romain. Cependant, Pilate choisit de respecter la décision de la foule. Nous ne savons pas pourquoi il céda ainsi à la pression de la foule, car il avait le pouvoir de faire comme bon lui semblait. Sans doute avait-il des raisons d'ordre politique, mais ses agissements servirent en fait à faire avancer les desseins du Dieu souverain. Pilate relâcha donc Barabbas, et il ordonna que Jésus soit soumis à des coups de fouet pour être ensuite crucifié.
Nous écouterons le récit relatant la crucifixion de Jésus la prochaine fois. En attendant, quelle leçon voulez-vous souligner à partir du texte lu aujourd'hui?
L'épisode concernant la libération de Barabbas m'apparaît comme étant une parabole vivante de la signification de la croix.
Expliquez-nous pourquoi.
Barabbas était coupable de crimes graves et sa condamnation était justifiée. Il méritait la peine qu'il attendait. Et puis, tout à coup, il est relâché. Il est de nouveau un homme libre. Il n'y a plus de condamnation qui pèse sur lui. Il n'y a plus de punition à craindre. Pourquoi ? Parce qu'un autre a pris sa place. Parce que Jésus va être cloué sur une croix qui, à l'origine, lui était destinée. Ceci sert d'illustration pour chacun d'entre nous. Comme le déclare l'apôtre Paul dans Romains chapitre 3, verset 23, « Il n'y a pas de différence entre les hommes, tous ont péché. » Même s'il est vrai que la plupart d'entre nous ne sont pas des meurtriers, devant Dieu, nous sommes tous coupables de péché et nous sommes donc tous condamnés. C'est la raison pour laquelle la mort éternelle nous attend tous. Toutefois, Jésus est allé sur la croix à notre place. Il y a subi le châtiment de Dieu à notre place. Il l'a fait par amour. Du coup, tout comme pour Barabbas, les accusations contre nous sont annulées. Dieu déclare que nous sommes innocents et nous pouvons repartir comme des hommes et des femmes libres. Nous sommes libérés de toute condamnation Nous sommes libérés de la peine qui pesait sur nous. Notre destin n'est plus l'enfer, mais plutôt la résurrection à la vie éternelle, du moment que nous croyons dans l'efficacité du sacrifice que Jésus a offert pour nous.
Merci. Il est vrai que la libération de Barabbas oriente nos regards vers la signification de la croix. Mais savons-nous qui est devenu Barabbas par la suite ?
Non, nous ne savons absolument pas. Certains aiment à penser qu'il a discrètement regardé Jésus mourir crucifié et que par la suite il a recherché le pardon de Dieu, puis qu'il est devenu son disciple. Cependant, il n'y a pas de preuve historique allant dans ce sens. D'autres pensent que Barabbas a repris sa vie de révolutionnaire violent, que les Romains ont fini par l'attraper de nouveau et que cette fois-ci, ils n'ont pas failli dans leur intention de le crucifier. Une fois de plus, aucun document historique fiable nous permet de défendre le bien fondé de cette hypothèse. Il faut simplement admettre que nous ne savons pas ce qu'est devenu Barabbas. Cependant, une toute autre question doit nous préoccuper.
Laquelle ?
Confronté à la croix de Jésus-Christ, qu'allez-vous faire ? Sur la croix, Christ vous tend la main pour vous offrir le pardon de Dieu et la réconciliation avec lui. Allez-vous vous tourner vers Christ ? Allez-vous vous repentir et mettre votre confiance en lui pour recevoir ses grandes et merveilleuses bénédictions ? Ou bien allez-vous lui tourner le dos et continuer votre vie comme si Christ n'avait rien fait pour vous, vous privant ainsi des bénédictions spirituelles et célestes que Christ a acquises sur la croix ? Oui, il n'est pas très utile de spéculer sur la question de ce que Barabbas a fait de sa liberté retrouvée. Mais vous, qu'allez-vous faire de Jésus-Christ ? Voilà une question de première importance, et vous seul pouvez y répondre.
Merci Mathieu pour votre participation aujourd'hui. Que chacun réfléchisse sérieusement à cette question que Mathieu vient de poser, car votre destin éternel en dépend. En attendant de vous retrouver bientôt, nous vous disons au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.